Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de toutes. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Certains quartiers, à Kinshasa par exemple, naissent de manière spontanée, sans respect des normes urbanistiques. Par exemple, vous retrouvez dans certains quartiers, les avenues se terminent en cul-de-sac, les caniveaux n'existent pas, les équipements sociaux de base sont presque inexistants. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cela, de l'absence de l'urbanisation dans certains quartiers de la ville ou ailleurs? Deschamps Gandou est architecte. Il est notre invité aujourd'hui. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Johnny.
Alors, l'urbanisation anarchique, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça?
Bon, merci. Je voudrais qu'on parte des concepts de base. Qu'il s'agisse de construire une maison, une villa, une bâtisse, la même démarche préoccupe aussi lorsqu'il s'agit de construire une ville. C'est-à-dire que on pense, on projette et puis on fait la planification. Et dans le cas d'une ville, lorsqu'on fait une planification, on projette l'épanouissement, ou plutôt l'expansion de la ville après autant d'années. Par exemple, après 20 ans, qu'est-ce que la ville va devenir? Et avec cette taille-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut loger les gens? Comment on peut ajouter d'autres équipements? Ainsi de suite. Et il y a des projections qui peuvent aller peut-être jusqu'à 50, 30, au-delà même de 50 ans. C'est ça qu'on appelle le schéma directeur d'une ville. Alors, dans la plupart des villes, on trouve ce schéma directeur-là. Nous, nous avions hérité d'un schéma directeur colonial, donc d'une urbanisation belge, qui a fait que nous avons d'une part, le long du fleuve, des quartiers administratifs, la commune de la Gombe, et de l'autre côté, on a placé les indigènes.
Les cités indigènes.
Voilà, ce qui fait que nous avons une certaine bipolarité. Alors, les matins, tout le monde va vers les centres-villes pour aller travailler pour une raison et pour une autre. Et les soirs, c'est dans le sens inverse. Alors, qu'à cela ne tienne, lorsque... Et il y a maintenant, ça, c'est le premier problème. Au fait, on a remarqué aussi que la croissance démographique dans les pays africains est allée d'une manière très accentuée. Nous avons en moyenne 5 à 7% de croissance démographique lent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des mégapoles à travers le monde sont constituées des pays africains. Nous, à Kinshasa, nous faisons partie de la troisième agglomération la plus importante en termes de taille de la population.
C'est dû à quoi? Beaucoup de naissances, l'exode rural.
L'exode rural, il y a beaucoup de raisons qui font que tout le monde converge vers les centres-villes. En fait, c'est bien en même temps, mais c'est mauvais aussi. C'est bien dans le sens que l'urbanisation, lorsqu'elle est bien contrôlée, elle est réussie, elle contribue à une certaine croissance économique. Mais lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas maîtrisée, elle devient une bombe à retardement. Alors, par rapport à ce que j'ai appelé le schéma directeur, chez nous, Kinshasa a l'espace d'occupation de plus ou moins 9 965 km². Mais l'urbanisation qui a été faite, ou plutôt la manière de construire, n'a été définie que sur plus ou moins 20% de cet espace-là. Ce qui fait qu'au-delà, il y a des naissances spontanées des quartiers. Alors, l'État, soit par des levées d'options, arrive à prendre des décisions, de dire que non, écoutez, il y a tel problème qui arrive, il y a des sinistrés de tel coin, mettez-les là-bas. Mais c'est des endroits qui n'étaient pas prévus pour cela. Ce qui fait que nous vivons une certaine anarchie, et la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a des bidons de quartiers, il y a des quartiers insalubres qui naissent, avec tout ce que cela implique comme conséquence sur la vie humaine. C'est-à-dire que la vie devient indigeste, la ville plutôt devient indigeste, elle ne fait pas beau vivre. Or, lorsqu'on parle d'une ville, on voit l'habiter, on voit le travail, on voit la circulation, on voit le loisir. Et c'est tout cela qui contribue à faire qu'un être humain puisse se sentir à l'aise et vivre décemment.
Alors donc les quartiers naissent spontanément parce qu'il n'y a pas un schéma directeur, ou il existe mais on ne les respecte
pas. Dans la plupart des cas, il existe mais on ne les respecte pas. J'ai parlé de levée d'options de pouvoir public, c'est-à-dire qu'on prend une décision sans consulter ce qui était préétabli. Ça, c'est d'une part. D'autre part, là où le schéma directeur c'est limité, il fallait encore en ajouter.
Oui.
Donc faire d'autres schémas pour que, étant donné que nous avons une croissance démographique très considérable, il fallait en tenir compte, c'est-à-dire évoluer avec la croissance pour que la vitesse de l'arrivée de la population ne puisse pas dépasser la vitesse d'établissement d'équipements ou des espaces que ces gens-là doivent occuper.
Mmh. Oui. Alors quand il y a anarchie dans ce domaine-là urbanistique, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Les conséquences sont très très multiples. Vous savez par exemple un quartier qu'on a construit sans lotissement, par exemple, c'est-à-dire il n'y a pas d'assainissement. On n'a pas canalisé les eaux, par exemple.
Mmh.
Je voudrais aller sur le plan physique ou géographique. Donc il y a des débits des pluies qui s'intensifient et l'eau étant un élément corrosif très dangereux,
oui,
il va s'effrayer une route. Et la route de l'eau, c'est quoi? C'est créer des érosions.
Et on a beaucoup de quartiers comme ça, Kinshasa, où il n'y a pas de caniveau.
Oui, voilà.
Oui.
Alors lorsqu'il y a des érosions, c'est la ville qui se déchire, qui se déchire en plusieurs morceaux.
Mmh.
Et ici, nous avons plus de 50 têtes d'érosion qui naissent chaque jour à Kinshasa. Alors ça, c'est déjà, ça perturbe. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, vous avez des ravins à gauche, des ravins à droite. Et tout cela fait qu'on n'a pas une circulation régulière, normale, au centre-ville, et tout est perturbé du jour au lendemain.
Mm-hmm.
Oui.
Voilà, il y a ça, il y a donc les érosions qui font que on retient beaucoup, il y a beaucoup d'érosion, vous avez dit, dans certains quartiers parce qu'il y a pas des caniveaux. Et on signale également aussi qu'il y a des avenues qui se terminent en cul-de-sac parce que chacun construit comme il veut, ou un voisin il construit et puis il bloque la route.
Oui, vous savez, il y a les cul-de-sac, ça fait partie aussi de manière d'aménager une ville. Quand il est prévu, une servitude pareille, il n'y a pas de problème. Mais il y a des cul-de-sac spontanés, où quelqu'un trouve que non, voilà, je ne peux pas aller à gauche, à droite, je me construis là-bas.
Mmh.
Quand il se construit là-bas, cela ne veut pas dire qu'il manque d'espace quelque part, mais tout le monde a besoin d'être dans un environnement où on est sécurisé. Actuellement, si quelqu'un a l'argent pour s'acquérir un lopin de terre, il préférerait être, par exemple, à Kitambo, parce qu'il s'est dit que non, ici, je suis à côté, par exemple, d'un robinet, je suis à côté d'un poste de police, je suis
le
à côté...
Le transport est facile,
le transport est facile, tout ça.
Ouais,
et c'est ce qui fait qu'il y a maintenant le phénomène de morcellement. Vous trouvez des parcelles de 20x20, mais qui sont morcelées en des vendis à l'un à l'autre.
Mmh.
Et on est sur une étendue de 20 sur 10, pratiquement un morcellement, et la surface bâtie occupe plus ou moins 80% de la parcelle, ce qui n'est pas normal.
Mmh.
Il n'y a pas d'élaisance, il n'y a pas d'air qui circule, et pourtant vous avez des enfants qui naissent, oui, qui doivent croître et qui doivent
avoir l'espace pour jouer.
Oui,
tout
voilà.
Ça. Ouais.
Oui, donc c'est-à-dire que l'être humain, comme tout ça, l'être humain a besoin de se sécuriser, de la sécurité,
mmh,
et on trouve que non, je ne peux pas aller à Mikondo où j'ai de l'espace. Parce que là, il va se poser un problème pour arriver au centre-ville, étant donné la bipolarité,
oui,
de la ville qui n'est pas encore résolue totalement. Alors, la scolarité des enfants, se former et accéder aux soins, tout ça pose problème. Et quand on réfléchit, on s'est dit, non, je préfère m'entasser là-bas.
Mm.
Donc, c'est ça, en fait, une des conséquences aussi, la plus majeure,
oui,
qui fait que lorsque l'urbanisation n'est pas bien maîtrisée...
Surtout ce phénomène de morcellement, on le signale même en Guiringuir, c'est devenu, c'est fréquent, on morcelle des parcelles et puis il n'y a plus d'espace. Quoi.
Oui, on morcelle des parcelles, il n'y a plus d'espace, et ça entraîne aussi comme conséquence lointaine des suridentifications parcellaires. Vous avez par exemple, je prends les cas de la commune de Lingwala, la commune de Barumbu, la commune de Kinshasa, où vous avez en moyenne 40 personnes dans une parcelle.
40 personnes
en moyenne. C'est-à-dire que tout le monde
peut-être avec deux toilettes seulement.
Voilà.
Oui.
Alors, vous voyez, avec tout cela, il y a des maladies qui se suivent et puis des contagions peuvent facilement ravager toute la parcelle.
Voilà.
Parce qu'on n'est pas dans des meilleures conditions hygiéniques.
Voilà. Alors, tous ces quartiers qui se créent, par exemple, dans la périphérie de Kinshasa, quels sont les équipements sociaux de base qu'il faut avoir pour qu'on parle d'un quartier bien urbanisé?
Ces quartiers-là sont nés de manière spontanée, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent, qui occupent. Or, avant de pouvoir loger, avant de pouvoir procéder à un lotissement, l'urbanisation prévoit des éléments essentiels. J'ai parlé du schéma directeur qui est l'architecture à grand espace, c'est-à-dire le plan d'ensemble. Mais à côté de ces plans d'ensemble, il y a le plan d'occupation des sols. Alors, les plans d'occupation des sols prévoient que non, dans ces quartiers, si nous devons loger, par exemple, des habitats qui ne peuvent pas construire des maisons au-delà, par exemple, de R+1, il faut que, avant que les gens se mettent à construire qu'on assainisse. C'est-à-dire, nous devons avoir des caniveaux.
Mmh.
Nous devons avoir un réseau de distribution d'eau, un réseau de distribution d'électricité. Nous devons avoir des équipements sociaux communautaires des bases. Une école, un poste, un marché, un centre de santé. Alors, une fois que ces conditions-là sont réunies, en ce moment-là, on peut procéder à la construction de l'habitation.
Mmh.
Mais maintenant, c'est l'envers. C'est-à-dire que on met la charrue devant le bœuf. Donc, les gens viennent occuper, ils occupent la totalité de ces espaces prévus pour les lotissements.
Mmh.
Il manque l'espace pour l'équipement des bases, il manque
pas l'école. Pas d'espace pour le marché,
voilà,
le terrain de football, rien de
les conséquences, on est dans un environnement insalubre. Donc, c'est ça, l'urbanisation informelle,
mmh,
qui fait que si l'État ne contrôle pas, si l'État n'a pas la même mise là-dessus, on va arriver à une explosion vertigineuse.
Quels sont les méfaits d'une urbanisation anarchique? On en parle aujourd'hui avec Deschamps Gandou, il est architecte. Modeste Mwamba nous appelle les Kananga. Marcel Mwamba est également, voilà, ils ont presque les mêmes noms. Ils se trouvent dans la même province.
La Belgique, le Canada et les États-Unis, les francophonies s'installent en RDC.
Du 8 au 14 septembre, vibrez au rythme de sonorités congolaises et étrangères au stade Vélodrome, au théâtre des Verdures, au centre culturel Meko, au centre Wallonie-Bruxelles, à l'hôtel Invest et dans certains bars désignés pour le folie.
Avec à l'affiche La Fouine, Johnny Clegg, Lokwa Kanda, Youssoupha, Papa Wemba, Jilin Piana, Fali Poupa, Ferregola et des dizaines d'autres artistes congolais et internationaux.
Vous voulez assister au concert? Écoutez l'agenda culturel de Radio Okapi à 6h20, 8h20 et 14h10 et gagnez des places.
Les Francophonies de Kinshasa, du 8 au 14 septembre, avec Las Belles, Aphrodisiac et Radio Okapi.
Bien, quels sont les méfaits d'une urbanisation anarchique? Modeste, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Modeste, quelle est votre question?
Allô?
Oui, on vous écoute, Modeste.
Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez en cet après-midi, en ce midi, bien sûr. Je pense à cet avant-midi, disais-je. Je pense que le problème, tous ces examens, est un problème qui met en jeu beaucoup de facteurs. L'invité a commencé par citer les quelques-uns, parce qu'on a toujours dit au grand mot, grand remède. Je voudrais un peu que l'invité nous dise, parce que lui est expert en la matière. Aujourd'hui, si on assiste qu'il y a beaucoup de maisons qui naissent, des quartiers qui sont urbanisés, c'est parce qu'il y a l'exode rural, il y a beaucoup de facteurs là qu'il a pu citer. Mais je vous dis aussi, monsieur Jody, juste quand on remarque qu'il y a prolifération de maisons, il y a une mauvaise habitation de gens, des fois, vous allez remarquer parfois dans notre commune de Lukonga, par exemple, là où moi j'habite, j'ai remarqué que beaucoup de quartiers ne sont pas planifiés. Les experts en la matière ne descendent pas toutefois pour prévenir ce genre de choses. Vous avez suivi l'invité parler du schéma directeur. Mais on a jamais vu des experts en la matière qui descendent pour prévenir ce genre de choses, pour que cela ne puisse pas arriver non plus. Mais sinon, vous retrouverez que les gens sont en train d'habiter comme ils veulent, comme s'ils se retrouvaient au village, disons. Bon, maintenant, je voudrais un peu savoir, parce que moi, j'ai constaté que lorsqu'on a mal construit, vous allez vous rendre compte parfois que avant d'arriver dans votre parcelle, vous passez par la parcelle du voisin. Et lorsque vous avez des difficultés avec le voisin, des fois, vous manquez par où sortir pour aller dans vos affaires. Et puis, oui, ça crée des problèmes sociaux là.
Mmh.
Je voudrais un peu que l'invité nous dise, n'y a-t-il pas de mesures sanctionnaires réservé à tous ces gens-là qui font de mauvais lotissements? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la SNCC, il y a eu des problèmes, on va déguerpir tous ceux qui ont loti le long du rail. Mais à partir de Kinshasa, là, où l'invité réside, mais comment lui, en tant qu'expert en la matière, ne prévient pas ce genre de choses avant que cela n'arrive? Du moment qu'il est là, on remarque que cela est en train de se faire.
Écoutez, l'expert n'a rien à faire par rapport à ça.
Maintenant, la deuxième question, je vous dis,
oui.
je voudrais bien qu'il puisse nous dire spécialement quel est le service étatique qui s'occupe de l'habitat, qui s'occupe de l'habitat, qui intervient pour donner des sanctions à ceux qui vont à l'encontre de ce que l'État dit. Merci.
D'accord. Marcel Mwamba de Kananga aussi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Ok. Je pense que l'architecte s'est beaucoup occupé de Kinshasa seulement. Mais ce problème-là, c'est un problème national.
Oui.
C'est ce que nous vivons du jour au jour ici à Kananga.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Oui, je pense que dans 2 ou 3 ans encore, la ville n'existera plus parce qu'il y a beaucoup de têtes d'érosion
oui.
qui menacent la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entretien des caniveaux. Tout ce que les Belges avaient laissé, on est en train d'y mettre des ordures, on ne les entretient pas, donc c'est, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Je pense que récemment, il y avait eu un projet d'amélioration des caniveaux ici à Kananga, mais on avait confié ça à la voirie urbaine, mais la voirie n'a pas su entretenir ça comme il fallait. Il a débouché les caniveaux, mais au niveau des trous aspirateurs, ils n'ont rien mis, ce qui a fait à ce que les saletés puissent encore y entrer. Les gens, ils jettent toujours des ordures, les caniveaux sont encore bouchés. Donc, ce problème, c'est un problème qu'il faut vraiment, sur quoi il faut beaucoup veiller. Et aussi, je voulais dire encore ceci. Pour le service d'urbanisation, en fait, ce sont eux qui distribuent les terres aux autres, mais lorsqu'ils les distribuent, cet argent, ils les mettent où? Donc, ils devaient procéder aux constructions de caniveaux, urbaniser bien les quartiers, afin qu'on ne puisse pas connaître les mêmes problèmes des érosions. Donc, c'est pour cela que j'allais demander ceci. Moi, je proposerais ceci. Comme proposition, je demande à ce que les autorités urbaines puissent vraiment regarder ces problèmes avec un œil très, très, très simple. Afin
d'accord.
qu'ils puissent...
D'accord.
Oui.
Merci Marcel Deschongando. Vous avez suivi les deux auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec les deux auditeurs dans le sens, dans la mesure où leurs préoccupations, ce sont des interpellations vis-à-vis du pouvoir public. Ils ont tout à fait raison.
Oui.
Il est vrai qu'il y a un problème de mécanisme d'entretien permanent de tout ce qu'on construit ici chez nous.
Oui.
On construit, mais après, il n'y a pas de mécanisme d'entretien permanent. Vous savez, construire une ville, construire une habitation, construire une bâtisse, c'est prévoir, c'est dire que non, voilà, on construit pour que ça vive, que ça dure et que ça meure aussi. Mais pour donner une longue vie, il faut mettre à côté un mécanisme d'entretien permanent. S'il n'y a pas de mécanisme d'entretien de tout ce qu'on a construit, donc il faut se dire que à court terme, ça va s'effondrer. Ça, c'est un problème réel qui existe dans notre pays. Mais entre-temps, lorsque vous constatez que l'État a déserté, qu'est-ce que vous allez faire? N'allez pas baisser les bras, parce que le concerné numéro un, c'est l'humain.
Et généralement, oui. Quand les gens vont, par exemple, chercher des terrains pour construire, ils vont pas voir les services de l'État, ils vont voir les chefs coutumiers, et puis qui distribuent des terrains, et puis chacun fait à sa manière, c'est après qu'on va voir les services de l'État.
Voilà. Quand ça tourne mal, c'est en ce moment-là qu'on cherche à voir où se trouve l'État. Mais quand on va pour acheter, on ne cherche pas à savoir est-ce que la démarche que je suis en train d'entreprendre pour l'achat, pour l'acquisition, est-elle normale? On ne va pas se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour acheter, où acheter et comment acheter. Non, là, on s'empresse, on achète parce qu'on a vu l'espace vierge. Mais plus tard, lorsqu'il y a des retombées, c'est en ce moment-là qu'on cherche à voir où se trouve l'État. Parfois, l'État n'a toujours pas tort. Mais c'est des gens qui s'emploient très mal dans leur démarche d'occupation de sols. Oui.
Et même ceux-là qui distribuent les terrains, ils tiennent pas compte de certains espaces qui doivent rester pour les équipements sociaux de base, pour les gens qui vont habiter plus tard dans ces quartiers-là.
Bon, il faut se dire que la démarche normale, lorsque on procède à un lotissement normal, à une urbanisation normale, on doit tenir compte de tout cela, des préalables avant de pouvoir loger les gens. Lorsque vous trouvez que non, il y a une démarche où il y a quelque chose qui s'est fait, où on n'intègre pas ces aspects-là, il faut alors prendre des réserves. Ou chercher aussi à informer l'État. Parce que l'État n'est pas là seulement pour veiller tous azimuts. Par moment, certaines choses peuvent échapper à l'État. Mais les citoyens ont aussi le devoir d'informer l'État qu'il se passe quelque chose d'anormal dans tel coin, si vous pouvez y veiller aussi. C'est ça, en fait, les partenariats entre l'État et les citoyens.
Il a parlé, il y a un modeste de Kananga qui a parlé aujourd'hui de certaines parcelles qui sont très mal construites et qui n'ont pas de sortie. Donc, pour sortir de sa maison, il faut passer par la parcelle du voisin. Et ça, j'ai vu ça également à Bukavu, au sud Kivu. Et ça, c'est vraiment un problème, monsieur Deschaux.
Oui, nous revenons pratiquement à ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que des occupations anarchiques, donc des bidonvilles, des quartiers insalubres, des occupations qui ne respectent pas les normes. Et ça, c'est à combattre. Donc, l'État doit tout faire pour maîtriser cela avant de pouvoir s'occuper de l'expansion normale de la ville. Parce que tant que vous n'avez pas résolu le problème, ou plutôt les combats contre les bidonvilles, vous ne pouvez pas continuer à aller créer d'autres quartiers parce que vous serez tout le temps obligé de faire marche en arrière. Mmh. Vous savez, dans les objectifs du millénaire, on dit que d'ici l'an 2020, il faudra qu'on arrive à avoir des villes sans bidonvilles. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on part d'une ville, on voit vraiment que c'est une ville, on ne voit pas des quartiers insalubres, on ne voit pas des bidonvilles, on ne voit pas des gens qui squattent à gauche, à droite. Mmh. En ce moment-là, vous pouvez commencer à aller vers les extensions. Mais tant que nous avons cela, c'est un problème réel et l'État doit vraiment veiller, sans quoi il sera toujours obligé de faire le marché sur place.
Oui. Amoury Hamzadi nous appelle de Kalima, dans la province du Maniema. Bonjour Amoury.
Bonjour Dodi, bonjour aussi à l'invité.
Bonjour. Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Je suis d'abord content de mes deux précédents qui ont dit sur leur province qui est les Kananga. Moi, je veux aussi parler sur la mienne qui est les Maniema. Comment aussi ici au Maniema, et je suis précisément à Kalima, vous verrez, si vous passez dans des grandes routes d'ici, vous verrez des maisons qui sont construites dans des routes. Vous verrez aussi des maisons qui ne respectent pas vraiment les normes de la route. Quelle prévention, je demande bien, je demande à l'invité, quelle prévention pouvez-vous donner à ceux qui construisent dans des routes? Merci.
Merci. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Waouh, la communication n'est pas... Désolé Ismaël, la liaison n'est pas très très bonne. Hein. Ça crache, on n'arrive pas à vous saisir très très bien. Voilà, désolé, en tout cas, changer de téléphone ou essayer de nous appeler plus tard, peut-être que ça va marcher. Oui, Deschaux Ngandou, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur de Kalima?
Amoury, je voudrais dire ceci. Lorsque, d'une manière générale, on constate une anarchie très accrue dans le domaine d'urbanisme, où on se rend compte que la ville est très mal urbanisée.
Les gens construisent même jusqu'aux abords des routes.
Hein. Oui, c'est comme on a dit tout à l'heure là, au grand mot, il faut des grands remèdes.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut déloger, reconstruire et reloger. Donc, c'est-à-dire que vous trouvez que vous ne pouvez pas faire ça, c'est faire de l'urbanisation chirurgicale. Donc, il faut raser, reconstruire, ou plutôt donner des bons tracés pour la reconstruction, et puis reloger ces gens-là. Donc vous ne pouvez pas chasser les gens, vous ne pouvez pas les mettre outre l'environnement de la vie. Parce que lorsqu'on parle de l'urbanisation, on fait l'urbanisation pour l'être humain, pour la chair, non pas pour les bétons, plutôt pour les arbres. Mmh. Donc c'est l'homme qui est toujours au centre de la préoccupation première. Mais lorsque vous vous rendez compte que cet homme-là est en train de mal se loger, de mal vivre, donc il faut l'aider à revenir aux normes, c'est-à-dire... Vous les mettez d'abord à l'écart, vous détruisez, vous lui permettez de reconstruire, ou plutôt si l'État a suffisamment de moyens, l'État procède à la reconstruction et au relogement. Donc ça demande beaucoup de moyens.
Il faut casser certaines maisons et puis à reconstruire.
Et nous avons encore beaucoup de problèmes dans notre pays. C'est le point qu'on ne peut pas vite s'engager sur cette démarche-là. Alors, la meilleure chose à faire, c'est-à-dire que l'État doit fournir un effort pour maîtriser ces constructions spontanées, là, ces occupations anarchiques.
Là. Et ce qui est grave, chacun construit à sa manière. Oui. Il n'y a pas des bâtiments uniformes. Vous trouvez des bâtiments en hauteur à côté des maisons basses. Alors, ça crée aussi un problème sur la beauté de la ville.
Oui, c'est ça. Ça fait l'absence de l'harmonie. Parce qu'on construit pour que ça soit beau, que ça soit un exemple à suivre, que ça soit non seulement durable, mais que ça soit une référence. Alors, s'il y a l'absence d'harmonie, si vous parcourez à vol d'oiseau un quartier, vous trouvez des maisons plein pied, vous trouvez des maisons R+5, vous trouvez des maisons R+D. Donc, l'absence de l'harmonie, là, ça fatigue même l'œil, ça peut énerver aussi. Donc, c'est ainsi que, dans les plans d'occupation des sols, on détermine, on dit dans ces quartiers, que vous avez des moyens ou pas, ne construisez pas de maison dépassant telle hauteur par exemple. Ici, avec ou sans moyens, n'allez pas à telle dimension, plutôt à telle hauteur de construction. C'est pour arriver à une certaine harmonie. C'est pour arriver à rendre des quartiers agréables, beaux à vivre. Ici, on plante les arbres, ici on fait passer tel réseau ou tel autre. Et c'est ce qui fait l'embellissement de la ville. Mais étant donné que l'État n'accompagne pas tous ces gens-là dans cette démarche, nous arrivons à cette situation que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui.
Et on a vu dans les quartiers, dans certains quartiers par exemple mal urbanisés, parce que l'État n'est pas intervenu, alors les habitants s'organisent eux-mêmes pour trouver des espaces où ils peuvent créer des écoles, des marchés et autres, trouver des aires de jeu pour les enfants.
Bon, les gens, c'est une volonté manifeste bien sûr, mais est-ce qu'ils s'emploient conformément aux normes? Parce que lorsqu'il s'agit de construire une école, il y a des normes à respecter. Il y a un espace minimum qu'une salle de classe doit avoir. Il y a un espace minimum que la cour doit avoir. Mm-hmm. Alors, est-ce que lorsque ces gens-là s'emploient, c'est juste des écoles de fortune ou bien ce sont des écoles qui respectent les normes et les conventions établies par l'UNESCO, par la loi urbanistique? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent, ils partent avec le moyen de bord pour ne fût-ce que donner un semblant de formation, d'éducation à l'enfant. Mais cette éducation-là, cette formation-là n'est pas intégrale parce que la bonne formation, la bonne éducation doit être saine, doit prendre l'être dans toute son intégralité, dans toutes ses dimensions. Cela implique un corps sain dans un esprit sain aussi. Mais si vous étouffez l'enfant dans une salle de classe où il voit à peine, où il y a une obscurité accrue, mais il faut vous dire que d'ici 18-20 ans, c'est un enfant qui sera peut-être myope ou qui aura de maladies de vision. Mm-hmm. Parce que vous l'avez longtemps placé dans un environnement qui ne correspondait pas en fait, à une bonne croissance de la vision.
Donc on retient qu'une urbanisation anarchique crée beaucoup d'autres problèmes.
Oui, elle crée beaucoup d'autres problèmes. Mais vous savez, par contre, une urbanisation contrôlée est aussi un facteur de croissance économique. Lorsque vous avez beaucoup de gens dans une ville, ces gens-là créent d'emplois par eux-mêmes, par exemple. Je prends, vous voyez, à travers la ville, il y a des gens déchirés. C'est des jeunes gens qui n'ont pas voulu voler ou faire quoi que ce soit, mais qui sont en train de parcourir les rues pour pouvoir cirer les chaussures des gens. Et c'est un besoin pour quelqu'un qui est sorti le matin chez lui et qui peut-être par le travail plutôt descendant de sa voiture ou plutôt après avoir fait plusieurs pas, il se rend compte que non, les chaussures ont plein de poussière, je cherche quelqu'un pour le faire.
Oui.
D'accord, mais ces gens-là empochent l'argent. Est-ce que l'État a la même mise sur ces jeunes gens-là? Est-ce qu'ils payent leurs patentes, par exemple? Or, si l'État contrôlait ces jeunes gens-là, ça pouvait constituer une assiette fiscale aussi importante. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Donc la croissance démographique n'est pas toujours un mal. C'est aussi un facteur de développement économique d'une ville. C'est ainsi que plus la ville est grande, si l'urbanisation est bien contrôlée, ça contribue aussi à la croissance économique d'une ville. Mais quand par contre, cela n'est pas contrôlé comme le cas chez nous ici, donc ça devient vertigineux, pratiquement une bombe à retardement. Donc plus tard, ces gens-là deviennent ce que nous appelons ici le phénomène Kuluna. C'est pas seulement à Kinshasa. La plupart des grandes capitales d'Afrique connaissent ce genre de problème. C'est parce qu'il y a une jeunesse incontrôlée. Or, la jeunesse constitue pour le moment plus de 50% de la population active. Donc c'est une fraction de la population très importante, telle que si vous n'arrivez pas à la maîtriser, elle peut déboucher sur n'importe quoi. Nous avons ces phénomènes-là. Maintenant, on est en train de combattre
le banditisme dans les grandes villes.
Oui, voilà.
Bien, merci Desho Ngandou, architecte. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, je dis. C'est à moi de vous remercier aussi.